Louis de Rouvroy, duc de Saint-Simon, extrait choisi des mémoires, neuvième partie. L'abbé Dubois devient archevêque de Cambrai. Cambrai vaqué, comme on l'a vu naguère, par la mort à Rome du cardinal de la Trémoille, c'est-à-dire le plus riche archevêché et un des plus grands postes de l'Église. L'abbé Dubois n'était que tonsuré, 150 000 livres de rente le tentèrent, et peut-être bien autant ce degré pour s'élever moins difficilement au cardinalat. Quelque impudent qu'il fût, quel que fût l'empire qu'il avait pris sur son maître, il se trouva fort embarrassé et masqua son effronterie de ruse. Il dit à M. le duc d'Orléans qu'il avait fait un plaisant rêve et lui conta qu'il avait rêvé qu'il était archevêque de Cambrai. Le régent, qui sentit où cela allait, fit la pirouette et ne répondit rien. Dubois, de plus en plus embarrassé, bégaya et paraphrasa son rêve, puis, se rassurant d'efforts, demanda brusquement pourquoi il ne l'obtiendrait pas, son altesse royale, de sa seule volonté, pouvant faire sa fortune. Monsieur le duc d'Orléans fut indigné, même effrayé, quelque peu scrupuleux qu'il fût, du choix des évêques, et d'un ton de mépris lui répondit « Quoi, toi, archevêque de Cambrai ?» en lui faisant sentir sa bassesse et plus encore le débordement et le scandale de sa vie. Dubois s'était trop avancé pour demeurer en si beau chemin. Il cita des exemples. Malheureusement, il n'y en avait que trop, et en bassesse et en étrange mœurs, grâce, comme on l'a vu, à Godet, évêque de Chartres, avec ses séminaristes de néant et ignorants dont il remplit les évêchés, au Pertellier et à la Constitution, pour bassesse, ignorance et mauvaise mœurs tout à la fois, et à ceux qui l'ont suivi. Monsieur le duc d'Orléans, moins touché de raisons si mauvaises qu'embarrassé de résister à l'ardeur de la poursuite d'un homme qu'il n'avait plus accoutumé d'oser contredire sur rien, chercha à se tirer d'affaire et lui dit « Mais tu es un sacre, et qui est l'autre sacre qui voudra te sacrer ?»« Oh, s'il ne tient qu'à cela, reprit vivement l'abbé, l'affaire est faite, je sais bien qui me sacrera, il n'est pas loin d'ici. » « Et qui diable est celui-là ? » répondit le régent, « qui osera te sacrer ?»« Voulez-vous le savoir ? » répliqua l'abbé. « Et ne tient-il qu'à cela, encore une fois ?»« Eh bien quoi ? » dit le régent. « Votre premier aumônier, reprit Dubois, qui est là-dehors, et il ne demandera pas mieux. Je m'en vais de lui dire. » Embrasse les jambes de monsieur le duc d'Orléans, qui demeure court et pris sans avoir la force du refus, sort, tire l'évêque de Nantes à part, lui dit qu'il a Cambrai, le prie de le sacrer, qu'il le lui promet à l'instant. Rentre, caracole, dit à monsieur le duc d'Orléans qu'il vient de parler à son premier aumônier, qui lui a promis de le sacrer, remercie, loue, admire, scelle de plus en plus son affaire en la comptant faite et en persuadant le régent, qui n'osa jamais dire que non. C'est de la sorte que Dubois se fit archevêque de Cambrai. L'extrême scandale de cette nomination fit un étrange bruit. Tout impudent qu'il fût, Dubois en fut extrêmement embarrassé, et M. le duc d'Orléans si honteux qu'on remarqua bientôt qu'on lui faisait peine de lui en parler. Question fut bientôt de prendre les ordres. Dubois se flatta que, dans la posture où il se trouvait, et le besoin que le cardinal avait et aurait continuellement de lui dans la situation si pénible où l'affaire de la Constitution, menée comme elle l'était, le mettait, lui ferait faire envers lui toutes les avances avec d'autant plus d'empressement que le cardinal avait lieu d'être fort mal content de lui et de toute la protection qu'il donnait à ses ennemis, qu'il ménageait de loin pour son cardinalat, et que le cardinal, dans l'espérance de se le ramener, au moins de l'adoucir, s'en ferait un mérite auprès de monsieur le duc d'Orléans, et de lui, et envers le public d'un si bon procédé, à l'égard d'un homme qu'il avait si peu mérité de lui. Il se trompa. La chair et le sang n'eurent jamais de part à la conduite du cardinal de Noailles. Les vices d'esprit et de cœur et les mœurs si publiques de l'abbé Dubois lui étaient connus. Il eut horreur de contribuer en rien à le faire entrer dans les ordres sacrés. Il sentit toute la pesanteur du nouveau poids dont son refus l'allait charger de la part d'un homme devenu tout puissant sur son maître, qui sentirait dans toute l'étendue l'insigne affront qu'il recevrait et quelles en seraient les suites pour le reste de leur vie. Rien ne l'arrêta. Il refusa le dimissoire pour les ordres avec un air de douleur et de modestie, sans que rien le pût ébranler, et garda là-dessus un parfait silence, content d'avoir rempli son devoir et y voulant mettre tout ce que ce même devoir y pouvait accorder à la charité, à la simplicité, à la modestie. On peut juger des fureurs où cet affront fit entrer Dubois, qui de sa vie ne le pardonna pas au cardinal de Noailles, lequel en fut universellement applaudi et d'autant plus loué et admiré qu'il ne le voulut point être. Il fallut donc se tourner ailleurs. Beson, frère du maréchal, tous deux si attachés et si bien traités et récompensés de monsieur le duc d'Orléans, tous deux sous leur air rustre, lourd et grossier, si bon courtisan, avaient été transférés de l'archevêché de Bordeaux à celui de Rouen, et Pontoise est de ce dernier diocèse qui touche ainsi celui de Paris et s'approche de cette ville à peu de lieues en deçà de Pontoise même. L'abbé Dubois voulait garder le temps et s'éviter la honte d'un voyage marqué. Les Besons lui parurent devoir être de meilleure composition que le cardinal de Noailles. Ils en furent en effet. L'archevêché de Rouen donna le dimissoire. Dubois, sous prétexte des affaires dont il était chargé, obtint un bref pour recevoir à la fois tous les ordres et se dispensa lui-même de toute retraite pour s'y préparer. Il alla donc un matin à 4 ou 5 lieues de Paris, où, dans une église paroissiale du diocèse de Rouen, du grand vicariat de Pontoise, Tressan, évêque de Nantes, premier aumônier de monsieur le duc d'Orléans, donna, dans la même basse qu'il célébra extra tempora, le sous-diaconat, le diaconat et la prêtrise à l'abbé Dubois, et en fut après récompensé de l'archevêché de Rouen et des économans à la mort de Beson, qui avait l'un et l'autre, et qui ne le fit pas longtemps attendre. On cria fort contre les deux prélats, et l'archevêque, qui était estimé et considéré avec raison, y eut à perdre. Pour l'autre, il n'y fit que gagner. Le même jour que l'abbé Dubois prit ainsi tous les ordres à la fois, il y eut conseil de régence l'après-dîner au vieux Louvre, parce que toutes les rougeoles qui couraient, même dans le palais royal, empêchaient qu'il se tînt à l'ordinaire aux Tuileries. On fut surpris d'un conseil de régence sans l'abbé Dubois qui y rapportait ce qui lui plaisait des affaires étrangères, mais on le fut bien davantage de l'y voir arriver. Il n'avait pas perdu de temps en action de grâce de tout ce qu'il venait de recevoir. Ce fut un nouveau scandale qui réveilla et qui aggrava le premier. Il venait, à ce que dit plaisamment le duc Mazarin, de faire sa première communion. Tout le monde était déjà arrivé dans le cabinet du conseil, et monsieur le duc d'Orléans aussi, et on y était debout et épars. J'étais dans un coin du bas-bout qui causait avec monsieur le duc de Conti, le maréchal de Tallard et un autre qui m'échappe, lorsque je vis entrer l'abbé Dubois en habit court avec son maintien ordinaire. Nous ne l'attendions pas un tel jour, ce qui fit que naturellement nous nous écriâmes. Cela lui fit tourner la tête, et voyant monsieur le prince de Conti venir à lui, qui de son côté, avec un ricanement de monsieur son père, mais qui assurément était bien éloigné d'en avoir les grâces, et au contraire était cynique, s'avança 2 pas à lui, lui parla de tous les ordres si brusquement reçus le matin même tous à la fois, de sa prompte arrivée au conseil, si peu de moments après cette cérémonie, quoique faite au loin de Paris, de son sacre qui allait suivre de si près, de sa surprise et de celle de tout le monde, et tout de suite lui fit un pathos avec tout l'esprit et la malignité possible qui tenait d'un assez plaisant sermon et qui aurait plus que démonté tout autre. Dubois, qui n'avait pas eu l'instant de placer une seule parole, le laissa dire, puis répondit froidement que, s'il était un peu plus instruit de l'Antiquité, il trouverait ce qui l'étonnait fort peu étrange, puisque lui, abbé, ne faisait que suivre l'exemple de saint Ambroise, dont il se mit à raconter l'ordination qu'il étala. Je n'entendis pas le récit, car dans le moment que jouit saint Ambroise, je m'enfuis brusquement à l'autre bout du cabinet de l'horreur de la comparaison et de la peur de ne pouvoir m'empêcher de lui dire d'achever, car je sentais bien que cela me prenait à la gorge, et de dire combien peu saint Ambroise se pourrait défier d'être ainsi saisi et ordonné, quelque résistance qu'il y fît, et avec combien d'éloignement et de frayeur, enfin toute la violence qui lui fut unanimement faite. Cette impie citation de cet Ambroise courut bientôt le monde avec l'effet que l'on peut penser. La nomination et cette ordination se firent dans la fin de février. J'achèverai tout de suite sur ce qui regarde cette matière pour ne la pas séparer et n'avoir pas à y revenir. On y trouvera une anecdote curieuse sur l'autorité de l'abbé Dubois sur son maître et sur la frayeur et le danger de lui déplaire. Il eut ses bulles au commencement de mai et fut sacré le dimanche 9 juin. Tout Paris et toute la cour y fut convié. Je ne le fus point, j'étais lors mal avec lui parce que je ne le ménageais guère avec M. le duc d'Orléans sur ses vues de cardinalat et sur son abandon dans les affaires à ce qui convenait aux Anglais et à l'empereur par lesquels il comptait d'arriver à la pourpre romaine. Comme il redoutait ma liberté, ma franchise, ma façon de parler à M. le duc d'Orléans qui lui faisait de fréquentes impressions, quoique je n'en donnasse assez rarement la peine, et qu'il avait celle de les effacer, il revenait à moi de temps en temps, me ménageait, me courtisait, toujours pourtant détournant tant qu'il pouvait la confiance de M. le duc d'Orléans en moi, qu'il resserrait sans cesse, mais qu'il ne pouvait arrêter totalement, ni même longtemps, quoique, comme je l'ai dit, je me retirasse beaucoup par le dégoût de tout ce que je voyais. Ainsi, nous étions bien en apparence quelquefois, et souvent mal. Ce sacre devait être magnifique, et M. le duc d'Orléans y devait assister. J'en dirai quelques mots dans la suite. Plus la nomination et l'ordination de l'abbé Dubois avaient fait de bruit, de scandale et d'horreur, plus les préparatifs superbes de son sacre les augmentaient, et plus l'indignation en éclatait contre M. le duc d'Orléans. Je fus donc le trouver la veille de cet étrange sacre, et d'aborder, je lui dis ce qui m'amenait. Je le fis souvenir que je ne lui avais jamais parlé de la nomination de l'abbé Dubois à Cambrai, parce qu'il savait bien que je ne lui parlais jamais des choses faites, que je ne lui en parlerais pas encore si je n'avais appris qu'il devait aller le lendemain à son sacre, que je me tairais avec lui de la façon dont il se faisait, tel qu'il ne pourrait mieux si l'usage était encore de faire des princes de sang évêques, et qu'il fût question de ce second fils, parce que je regardais cela comme chose déjà faite, mais que mon attachement pour lui ne me permettait pas de lui cacher l'épouvantable effet que faisait universellement une nomination, de tout point si scandaleuse, une ordination si sacrilège, des préparatifs de sacre si inouïs, pour un homme de l'extraction, de l'état, des mœurs et de la vie de l'abbé Dubois, non pour lui reprocher ce qui n'était plus réparable, mais pour qu'il sût à quel point en était la générale indignation contre lui, et que de là il conclut ce que ce serait pour lui d'y mettre le comble en allant lui-même à ce sacre. Je le conjurais de sentir quel serait ce contraste avec l'usage non seulement des fils de France, mais des princes de sang, de n'aller jamais à aucun sacre, parce que je n'appelais pas y aller la curiosité d'en voir un une fois en leur vie que les rois et les personnes royales avaient eu quelquefois. J'ajoutais qu'à l'opinion que sa vie et ses discours ne donnaient que trop continuellement de son défaut de toute religion, on ne manquerait pas de dire, de croire et de répandre qu'il allait à ce sacre pour se moquer de Dieu et insulter son Église. Que l'effet de cela était horrible et toujours fort à craindre, et qu'on y ajouterait avec raison que l'orgueil de l'abbé Dubois abusait de lui en tout, et que ce trait public de dépendance, par une démarche si étrangement nouvelle et déplacée, lui attirait une haine, un mépris, une honte dont les suites étaient à redouter. Que je ne lui en parlais qu'en serviteur entièrement désintéressé, que son absence ou sa présence à ce sacre ne changerait rien à la fortune de l'abbé Dubois, qui ne serait ni plus ou moins archevêque de Cambrai, et n'obscurcirait en rien la splendeur préparée pour ce sacre, telle qu'elle ne pouvait être plus grande si on avait un fils de France à sacrer. Qu'en vérité, c'en était bien assez pour un Dubois, sans prostituer son maître aux yeux de toute la France et bientôt auprès de toute l'Europe par la bassesse inouïe d'une démarche où on verrait bien que l'extrême pouvoir de Dubois sur lui l'aurait entraîné de force. Je finis par le conjurer de n'y point aller et par lui dire qu'il savait en quels termes actuels l'abbé Dubois et moi étions ensemble. que j'étais le seul homme de marque qui n'y fût point convié, que, nonobstant tout cela, s'il me voulait promettre et me tenir sa parole de n'aller point à ce sacre, je lui donnais la mienne d'y aller, moi, et d'y demeurer tout du long, quelque horreur que j'en eusse et quelque blessé que je fusse de ce que cela ferait sûrement débiter, que ce trait de courtisan était pour me raccommoder avec lui, moi si éloigné d'une pareille misère et qui osait me vanter, puisqu'il le fallait aujourd'hui, d'avoir jusque ce moment conservé chèrement toute ma vie mon pucelage entier sur ses bassesses. Ce propos, vivement prononcé, et encore plus librement et plus énergiquement entendu, fut égoutté d'un bout à l'autre. Je fus surpris qu'il me dit que j'avais raison, que je lui ouvrais les yeux, plus encore qu'il m'embrassa, me dit que je lui parlais en véritable ami, et qu'il me donnait sa parole et me la tiendrait de n'y point aller. Nous nous séparâmes là-dessus, moi le confirmant encore, lui promettant de nouveau que j'irais, et lui me remerciant de cet effort. Il n'eut nulle impatience, nulle envie que je m'en allasse, car je le connaissais bien, et je l'examinais jusqu'au fond de l'âme, et ce fut moi qui le quittais, bien content de l'avoir détourné d'une si honteuse démarche et si extraordinaire. Qui n'eût dit qu'il ne m'eût tenu parole, car on va voir qu'il le voulait. Mais voici ce qui arriva. Quoique je me crusse bien assuré là-dessus, néanmoins la facilité, l'extrême faiblesse du prince et l'empire sur lui et l'orgueil de l'abbé Dubois m'engagèrent à prendre le plus sûr avant d'aller au sacre. J'envoyai aux nouvelles le lendemain matin au palais royal, et cependant je fis tenir mon carrosse tout prêt pour tenir ma parole. Mais je fus bien confus, quelque accoutumé que je fusse aux misères de M. le duc d'Orléans, quand celui que j'avais envoyé voir ce qui se passait revint et me rapporta qu'il venait de voir M. le duc d'Orléans monté dans son carrosse et environné de toute la pompe des rares jours de cérémonie, partir pour aller au sacre. Je fis ôter mes chevaux et m'enfonçai dans mon cabinet. Le surlendemain, j'appris par un coucheur favori de Madame de Parabère, qui était alors la régnante, mais qui n'était pas fidèle, qu'étant couché la nuit qui précéda le sacre avec Monsieur le duc d'Orléans au palais royal, entre deux draps, ce qui n'arrivait guère ainsi dans la chambre et le lit de Monsieur le duc d'Orléans, mais presque toujours chez elle, il s'était avisé de lui parler de moi avec éloge, que je ne rapporterai pas, et avec sentiment sur mon amitié pour lui, et que, plein de ce que je venais de lui représenter, il n'irait point au sacre dont il me savait le meilleur gré du monde. La Parabère me loua, convint que j'avais raison, mais sa conclusion fut qu'il irait. Monsieur le duc d'Orléans, surpris, lui dit qu'elle était donc folle. « Folle, soit, répondit-elle, mais vous irez. » Et moi, reprit-il, je te dis que je n'irai pas. « Si, vous dis-je, dit-elle, et vous irez. » « Mais, reprit-il, cela est admirable, tu dis que M. de Saint-Simon a raison, et au bout, pourquoi donc irais-je »« Parce que je le veux, dit-elle. » « Ah, en voici une autre, répliqua-t-il, et pourquoi veux-tu que j'y aille? Quelle folie est cela ?»« Pourquoi, dit-elle, parce que... » « Oh, parce que, répondit-il, parce que ce n'est pas la parler. Dis-moi, pourquoi, si tu peux ?» Après quelques disputes, « Voulez-vous donc absolument le savoir ? C'est que vous n'ignorez pas que l'abbé Dumois avons eu, il n'y a pas 4 jours, maille à partir ensemble et qui n'est pas encore bien fini. C'est un diable qui furette tout. Il saura que nous avons couché ici cette nuit ensemble. Si demain vous n'allez pas à son sacre, il ne manquera pas de croire que c'est moi qui vous en ai empêché. Et rien ne pourra lui ôter cette idée de la tête. Il ne me le pardonnera pas. Il me fera 100 tracasseries et 100 noirceurs auprès de vous et finira promptement par nous brouiller. Or, c'est ce que je ne veux pas. Et c'est pour cela que je veux que vous alliez à son sacre, quoique M. de Saint-Simon ait raison. » Là-dessus, débat assez faible, puis résolution et promesse d'aller au sacre, qui fut bien fidèlement exécutée. La nuit suivante, la Parabère coucha chez elle avec son greluchon, à qui elle raconta cette histoire tant elle la trouvait plaisante. Par cette même raison, le greluchon la rendit à Biron, qui, le soir même, me la conta. Je déplorais avec lui les chaînes du régent, à qui je n'ai jamais parlé depuis de ce sacre, ni lui à moi. Mais il fut après bien honteux et bien embarrassé avec moi. Je n'ai point su s'il poussa la faiblesse jusqu'à conter à l'abbé Dubois ce que je lui avais dit pour l'empêcher d'aller à son sacre, ou s'il en fut informé par la Parabère pour se faire un mérite auprès de lui d'avoir fait changer monsieur le duc d'Orléans là-dessus et faire montre de son crédit. Mais il en fut très parfaitement informé et il ne me l'a jamais pardonné. Et j'ai su depuis par Belle-Île qui avait dit à monsieur Leblanc et à lui que de toutes les contradictions que je lui avais fait essuyer, même du danger pressant où je l'avais mis quelquefois, rien ne l'avait si profondément touché et blessé, et jusqu'au fond de l'âme, que d'avoir voulu empêcher monsieur le duc d'Orléans d'assister à son sacre, duquel il est maintenant temps de parler. Tout y parut également superbe, et choisi pour faire éclater la faveur démesurée d'un ministre éperdu d'orgueil et d'ambition sans bornes, la servitude la plus publique et la plus démesurée où il avait réduit son maître, et l'audace effrénée de s'en parer, en la manifestant aux yeux de toute la France avec le plus grand éclat, et de là à ceux de toute l'Europe, à qui il voulait apprendre de la manière la plus éclatante que lui était entièrement maître de la France, soit pour le dedans, soit pour le dehors, sous un nom qui n'était qu'une vilaine écorce, et qu'à lui seul il fallait s'adresser pour quelque grâce ou pour quelque affaire que ce fût, comme à l'unique dispensateur et au seul véritable arbitre de toutes choses en France. Le Val-de-Grâce fut choisi pour y faire le sacre, comme étant un monastère royal le plus magnifique de Paris et l'église la plus singulière. Le cardinal de Rouen, ravi de faire contre en tout au cardinal de Noailles et de profiter du refus qu'il avait fait à l'abbé Dubois de lui promettre d'être ordonné dans son diocèse, saisit un si précieux moment de se bien faire voir à la cour du régent et de s'attacher son ministre en s'empressant pour faire la cérémonie. En effet, un cardinal de sa naissance, évêque de Strasbourg et brillant de toutes sortes d'avantages, était un consécrateur fort au-dessus de tous ceux que l'abbé Dubois aurait pu désirer. Il n'y avait guère en fait d'honneur que la première démarche de chair. Rohan avait franchi le sceau quand, à la persuasion intéressée du maréchal de Tallard, comme on l'a vu ici en son lieu, il subit la loi que lui fit le père Tellier pour le faire grand aumônier, et se livra contre le cardinal de Noailles, ses propres lumières et la vérité à lui parfaitement connue et reconnue, à toutes les scélératesses et à toutes les violences dont ce terrible jésuite le rendit son ministre et que l'intérêt et l'orgueil d'être chef de parti et de n'en abandonner pas l'honneur et le profit au cardinal de Bissy lui fit continuer depuis en premier. Avec le revêtement constant d'un tel personnage, il ne fallait pas s'attendre qu'aucune considération de honte ni d'infamie retînt le cardinal de Rohan d'une si étrange prostitution, moins encore que sa conscience l'arrêta un moment sous le sacrilège dont il allait se rendre le ministre. L'abbé Dubois fut donc comblé de l'honneur qu'il lui voulut bien faire. Monsieur le duc d'Orléans témoigna au cardinal toute la part qu'il y prenait, et Rohan, charmé des espérances qu'il conçut de ce grand trait de politique, plus sensible pour sa maison que pour sa cause, laquelle ne fut jamais que pour servir aux avantages de l'autre, se rit de tous les discours, du bruit, de l'improbation générale et nullement retenue que cette fonction excita, et qu'il ne regarda que comme des raisons de plus et des fondements d'augmentation à ses espérances pour tout ce qu'il pouvait désirer d'un homme tout-puissant pour l'amour duquel il se livrait à tant d'opprobre. À l'égard des deux évêques assistants, Nantes y avait un tel droit par l'ordination qu'il avait osé donner à l'abbé Dubois qu'il n'y avait pas moyen de lui préférer personne. Pour l'autre assistant, Dubois crut en devoir chercher un dont la vie et la conduite pût être un contrepoids. Il voulut Massillon, célèbre prêtre de l'oratoire que sa vertu, son savoir, ses grands talents pour la chair avaient fait nommer évêque de Clermont, parce qu'il en passait quelquefois, quoique rarement, quelques bons parmi le grand nombre des autres qu'on faisait évêque. Massillon, au pied du mur, étourdi, sans ressources étrangères, sentit l'indignité de ce qui lui était proposé, balbutia, n'osa refuser. Mais qu'eût pu faire un homme aussi mince selon le siècle vis-à-vis d'un régent, de son ministre et du cardinal de Rohan? Il fut blâmé néanmoins, et beaucoup, dans le monde, surtout des gens de bien de tout parti, car en ce point l'excès du scandale les avait réunis. Les plus raisonnables, qui ne laissèrent pas de se trouver en nombre, se contentèrent de le plaindre, et on convint enfin assez généralement d'une sorte d'impossibilité de s'en dispenser et de refuser. L'église fut superbement parée, toute la France invitée. Personne n'osa hasarder de ne s'y pas montrer, et tout ce qui le put, pendant toute la cérémonie. Il y eut des tribunes à jalousie préparées pour les ambassadeurs et autres ministres protestants. Il y en eut une autre plus magnifique pour monsieur le duc d'Orléans et monsieur le duc de Chartres qui l'y mena. Il y en eut pour les dames, et comme monsieur le duc d'Orléans entra par le monastère et que sa tribune se trouva au-dedans, il fut ouvert à tout venant, tellement que le dehors et le dedans furent remplis de rafraîchissements de toutes les sortes et d'officiers qui les faisaient et les distribuaient avec profusion. Ce désordre continua tout le reste du jour par le grand nombre de tables qui furent servies dehors et dedans pour tout le subalterne de la fête et pour tout ce qui s'y voulut fourrer. Les premiers gentilshommes de la chambre de monsieur le duc d'Orléans et ses premiers officiers firent les honneurs de la cérémonie, placèrent les gens distingués, les reçurent, les conduisirent, et d'autres de ses officiers prirent le même soin à l'égard de gens moins considérables, tandis que tout le guet et toute la police étaient occupés à faire aborder, ranger, sortir les carrosses sans nombre avec tout l'ordre et la commodité possible. Pendant le sacre, qui fut peu décent de la part du consacré et des spectateurs, surtout en sortant de la cérémonie, monsieur le duc d'Orléans témoigna sa satisfaction à ce qu'il trouva sous sa main des gens considérables de la peine qu'ils avaient prise, et s'en alla dîner à Asnières avec madame de Parabère, bien contente de l'avoir fait aller au sacre, qu'il vit, et à ce qu'on lui imposa peut-être trop véritablement, qu'il vit, dis-je, peu décemment, tout le commencement jusqu'à la fin. Tous les prélats, les abbés distingués et quantité de laïcs considérables furent invités pendant la cérémonie par les premiers officiers de monsieur le duc d'Orléans à dîner au palais royal. Les mêmes firent les honneurs du festin qui fut servi avec la plus splendide abondance et délicatesse et apprêté et servi par les officiers de monsieur le duc d'Orléans et à ses dépens. Il y eut deux tables de 30 couverts chacune dans une grande pièce du grand appartement qui fut remplie de ce qu'il y avait de plus considérable à Paris et plusieurs autres tables également bien servies en d'autres pièces voisines pour les gens moins distingués. Monsieur le duc d'Orléans donna au nouvel archevêque un diamant de grand prix pour lui servir d'anneau. Toute cette journée fut livrée à cette sorte de triomphe qui n'attira pas l'approbation des hommes ni la bénédiction de Dieu. Je n'en vis pas la moindre chose et jamais, monsieur le duc d'Orléans et moi, ne nous en sommes parlé. Dubois est fait cardinal. À mesure que le temps s'écoulait depuis l'exaltation du pape et qu'il était vivement pressé de tenir à l'abbé Dubois la parole qu'il lui avait donnée par écrit au cas qu'il fût élu pape, l'impatience de Dubois croissait avec ses espérances et ne lui laissait plus de repos. Il se trouva bien étourdi quand il apprit que le pape avait fait cardinal tout seul, le 16 juin, son frère, évêque de Terracine, depuis 10 ans, moine bénédictin au Mont Cassin. Dubois s'attendait qu'il ne se ferait point de promotion sans qu'il en fût, et jeta feu et flamme. Son attente ne fut pas longue. Un mois après, le 16 juillet, le pape le fit cardinal, avec Don Alexandre Alban, neveu du feu pape et frère du cardinal Camerlingue. Il en reçut la nouvelle et les compliments avec une joie extrême, mais qu'il sut contenir dans quelque décence, et en donner tout l'honneur à la protection de monsieur le duc d'Orléans, qui, comme on l'a vu, y eut peu ou point de part. Mais il ne se put empêcher de débiter à tout le monde que ce qui l'honorait plus que la pourpre romaine était le vœu unanime et l'empressement de toutes les puissances à la lui procurer, à empresser le pape et à désirer que sa promotion fût avancée sans attendre leur nomination ni la promotion des couronnes. Il s'éventait là-dessus et ne pouvait finir sur ce chapitre qu'il recommençait à tout moment et dont personne ne fut la dupe. Quoique nous fussions au point où on l'a vu ici, je crus devoir mettre monsieur le duc d'Orléans à son aise entre Dubois et moi, avec lequel j'allais avoir un commerce nécessaire et forcé dans mon ambassade. J'allai donc chez lui, où il me combla de respect, de compliments, de protestations, de reconnaissance de l'honneur que je lui faisais, sans parler du passé. Quoique, à la façon dont nous étions ensemble, et à l'occasion qui m'amenait chez lui, la visite fut de cérémonie, et qu'il n'y eut un monde infini, il en usa avec sa calotte rouge qu'il venait de recevoir des mains du roi, comme si elle eût encore été noire, me fit litière de la main, de termes de respect, de conduite, jusque tout au bout de son appartement et à la petite cour où il aboutissait. Monsieur le duc d'Orléans me témoigna beaucoup de gré de cette démarche de ma part, et je ne rencontrai plus le nouveau cardinal chez ce prince, qu'il ne vint à moi, se recula aux portes, et ne me fit merveille, auquel je n'avais garde de me fier. En recevant sa calotte des mains du roi, il détacha de son col sa croix épiscopale, la présenta à l'évêque de Fréjus, lui dit qu'elle portait bonheur, et que c'était pour cela qu'il le priait de la porter pour l'amour de lui. Fréjus rougit et la reçut avec beaucoup d'embarras. Cette croix, quoique faite comme toutes les autres, avait pourtant une façon très remarquable et qui la faisait parfaitement distinguer. Fréjus, exposé à rencontrer très fréquemment le cardinal, nouveau chez le roi, n'osa ne pas porter cette croix assez souvent. Dînant dans ses premiers jours, ayant cette croix à son col chez la duchesse de Lude avec monsieur et madame de Torcy et bonne compagnie, madame de Torcy, qui n'aimait pas Dubois et qui, fort Arnaud, était fort mécontente de l'ardente conduite de Fréjus sur la Constitution et contre ce qu'on taxait de jansénisme, et accoutumée à l'avoir vu si longtemps poirier, commença les complaisants de sa maison, l'entreprit sur cette croix, à table, avec beaucoup d'esprit, de licence et d'aigreur, tombant sur tous les deux avec une finesse aiguë, et mit Fréjus dans un tel désordre qu'il ne savait plus où il en était, sans que la compagnie, qui s'en aperçut et qui souffrait de cette scène en pleine table, pût rompre les chiens de cette chasse qui dura fort longtemps, et que Fréjus n'a jamais pardonné à madame de Torcy, ni même à son mari, quoiqu'il n'y eût rien mis du sien. Il était trop sage et trop mesuré pour n'en avoir pas été très embarrassé lui-même, et à la vérité, ce fut grande imprudence à madame de Torcy. L'abbé Passirani, camérier d'honneur du pape, étant arrivé avec le bonnet, le nouveau cardinal le reçut des mains du roi et fit ses visites au sang royal avec les cérémonies accoutumées. Il avait eu près de 2 mois à s'y préparer, et il faut avouer qu'il en profita bien. Il avait un compliment à faire à madame et à monsieur et à madame la duchesse d'Orléans dans l'audience de cérémonie qu'il en eut, car pour les visites aux princes et princesses de sang, ce ne sont que visites et compliments en cérémonie, mais ce ne sont pas des audiences avec un compliment en forme qui est une petite harangue. Il devait bien s'attendre à ce que madame souffrirait de le recevoir en cérémonie, de le saluer et de lui donner un tabouret, et madame la duchesse d'Orléans de lui donner un siège à dos après l'avoir vu si longuement si petit compagnon, et madame, qui ne lui avait jamais pardonné le mariage de son fils, qu'il avait toujours traité avec le plus grand mépris, parler de lui sans mesure et demander, comme on l'a vu, pour toute grâce à monsieur le duc d'Orléans, le jour de sa régence, de n'employer à rien ce petit fripon-là qui le vendrait et le déshonorerait. Le cardinal Dubois se composa, parut devant madame pénétré de respect et d'embarras. Il se prosterna comme elle s'avança pour le saluer, s'assit au milieu du cercle, se couvrit un instant de son bonnet rouge qu'il ôta aussitôt et fit son compliment. Il commença par sa propre surprise de se trouver en cet état devant madame, parla de la bassesse de sa naissance et de ses premiers emplois, les employa avec beaucoup d'esprit et en termes fort choisis, à relever d'autant plus la bonté, le cœur et la puissance de monsieur le duc d'Orléans, qui, de si bas, l'avait élevé où il se voyait. Ce fut une leçon de n'oublier jamais ce qu'il avait été pour sentir toujours plus vivement ce qu'il devait à ce prince, ayant employé tout ce qui pourrait être en lui, sans se louer ni s'applaudir le moins du monde, pour le servir, car la modestie surnagea toujours dans ses discours d'audience, donna un encens délicat à madame, enfin se confondit en respect les plus profonds et en reconnaissance. Il parla si judicieusement et si bien que, quelque indignation qu'on eût contre sa personne et sa fortune, tous ceux qui l'entendirent en furent charmés, et madame elle-même ne put s'empêcher, après qu'il fut sorti, de louer son discours et sa contenance, tout en ajoutant qu'elle enrageait de le voir où il était. Ses audiences à monsieur le duc d'Orléans et madame la duchesse d'Orléans se passèrent avec le même succès. Ce fut sur le fond, en d'autres termes. Je me suis étendu sur celle de madame comme la plus difficile et la plus curieuse, et j'ai voulu rapporter tout de suite ce qui regarde cette réception du cardinal. De Paris à Madrid, Saint-Simon ambassadeur, 1721. Enfin, je partis en poste le 23 octobre, ayant avec moi le comte de Lorge, mes enfants, l'abbé de Saint-Simon et son frère, et quelque peu d'autres. Le reste de la compagnie me joignit à Blaye, comme l'abbé de Matan, et à Bayonne, comme monsieur de Séreste. Nous couchâmes à Orléans, à Montrichard et à Poitiers. Allant de Poitiers coucher à Ruffec, je rencontrai le duc d'Ossonne à Vivonne. Je m'arrêtai pour le voir, et sachant qu'il était à la messe, j'allai l'attendre à la porte de l'église. Comme il sortit, ce fut des compliments, des accueils et des embrassades. Puis nous allâmes ensemble à la poste où lui et moi avions mis pied à terre, car il venait en poste aussi. Force compliments aux portes où je voulus, comme de raison, lui faire les honneurs de la France. Nous montâmes dans une chambre où on nous laissa seuls et où nous entretînmes une heure et demie. Il parlait mal français, mais plus que suffisamment pour la conversation. Après un renouvellement de compliments sur les mariages et le renouvellement si étroit de l'union des deux couronnes et les politesses personnelles sur nos deux emplois, il entra le premier en matière sur la joie des véritables Français et Espagnols et le dépit amer des mauvais. Je fus surpris de le trouver si bien informé de nos cabales et de ce qu'on appelait la vieille cour. Sans avoir voulu nommer personne, il m'en désigna plusieurs et rien ne pouvait être plus clair que ses plaintes contre des gens entièrement attachés au roi d'Espagne jusqu'au mariage et qui, depuis ce moment, se déchaînaient et contre les mariages et contre l'Espagne. Il me dit que monsieur le duc d'Orléans avait plus d'ennemis de sa personne et de son gouvernement qu'il ne pensait, que je l'avertisse d'y prendre garde, et il ajouta que dans l'état où en étaient les choses, on ne pouvait trop se hâter de part et d'autre de les finir. Il me parla, mais sans désigner personne, de force mouvements dans notre cour et à Paris pour retarder, dans le dessein de gagner du temps, pour se donner celui de faire tout rompre, et qu'en Espagne on sentait le même esprit et de l'intelligence. En même temps me protesta qu'il n'y avait personne qui osât s'hasarder d'en parler au roi ni à la reine d'Espagne d'une manière directe, que tous efforts, quand même il en paraîtrait à Madrid, seraient inutiles. De la joie et de l'empressement de leur majesté catholique, des avantages réciproques de cette réunion. Ce que j'exprime ici en peu de paroles en produisit beaucoup, parce qu'il fut d'abord énigmatique et fort réservé, et que l'ouverture ne vint qu'à peine sur tout ce que je lui dis pour le déboutonner. Or, ce qui, de ma part, me sembla nécessaire pour y parvenir, et sans descendre en aucun particulier, on peut juger que j'eus les oreilles plus ouvertes que la bouche. Néanmoins, je l'exhortai à s'ouvrir franchement et nominalement avec monsieur le duc d'Orléans, et je tâchai de lui persuader qu'il ne pouvait rendre un plus grand service non seulement à ce prince, dont il lui sut plus de gré, mais à leur majesté catholique, à qui désormais ses intérêts étaient unis, et par amitié, et pour la grandeur des deux couronnes. Il m'assura qu'il s'expliquerait avec monsieur le duc d'Orléans, comme il faisait avec moi. Mais quoique j'insistasse qu'il lui nommât les personnes et que je lui répondais du secret, je n'en pus tirer parole. Ainsi ne m'en donna-t-il pas de négative, mais je sentis bien à ses discours là-dessus que la politesse pour moi y avait plus de part que la volonté d'une entière confidence sur un article si important, mais si délicat. Nous nous séparâmes de la sorte avec force compliments, accolades et protestations. Je ne pus, quoi que je puisse faire, l'empêcher de descendre, mais à mon tour, il ne put m'obliger à monter dans ma berline qu'il ne se fût retiré. Il était assez peu accompagné. Ma berline cassa en arrivant à Coué, terre appartenant à monsieur de Vérac. Il fallut y mettre un autre essieu. J'y fus donc plus de 3 heures que j'employai à écrire à Monsieur le duc d'Orléans et au cardinal Dubois le récit de cette conférence et aller voir le château et le parc un moment. Ces retardements me firent arriver à minuit à Ruffec, où j'étais attendu de bonne heure par force noblesse de la terre et du pays, à qui je donnai à dîner et à souper les 2 jours que j'y séjournais. J'eus un vrai plaisir d'y embrasser Puy-Robert, qui était lieutenant-colonel du régiment royal Roussillon, du temps que j'y avais été capitaine. De Ruffec, j'allai en 2 jours à La Cassine, petite maison à 4 lieues de blé, que mon père avait bâtie au bord de ses marais de blé et que je pris grand plaisir à visiter. J'y passai la veille et le jour de la Toussaint, et le lendemain je me rendis de fort bonne heure à Blaye, où je séjournai 2 jours. J'y trouvai plusieurs personnes de qualité, force noblesse du pays et des provinces voisines, et Boucher, intendant de Bordeaux, beau-frère de Leblanc, qui m'y attendait et auquel je fis grand cher soir et matin pendant ce court séjour. Je l'employai bien à visiter la place, dedans et dehors, le fort de Lille et celui de Médoc vis-à-vis Blaye, où je passais par un très fâcheux temps. Mais je voulais voir, et j'y menai mon fils, qui avait la survivance de mon gouvernement. Nous passâmes à Bordeaux, par un si mauvais temps que tout le monde me pressait de différer. Mais on ne m'avait permis que ce peu de séjour que je ne voulus pas outrepasser. Boucher avait amené son brigantin, magnifiquement équipé, et tout ce qu'il fallait de barque pour le passage de tout ce qui m'accompagnait et de tout ce qui était venu me voir à Blaye, dont la plupart passèrent à Bordeaux avec nous. La vue du port et de la ville me surprirent, avec plus de 300 bâtiments de toutes nations rangés sur 2 lignes sur mon passage, avec toutes leurs parures et grand bruit de leurs canons et de celui de Château Trompette. On connaît trop Bordeaux pour que je m'arrête à décrire ce spectacle. Je dirais seulement qu'après le port de Constantinople, la vue de celui-ci est en ce genre ce qu'on peut admirer de plus beau. Nous trouvâmes force compliments et force carrosses au débarquement qui nous conduisirent chez l'intendant où les jurats de Bordeaux vinrent me complimenter en habit de cérémonie. Comme ces messieurs sont les uns de qualité, les autres considérables, et que cette jurade est extrêmement différente en tous les autres corps de ville, je me tournai vers l'intendant après leur avoir répondu, et je le priai de trouver bon que je les conviasse de souper avec nous. Ils me parurent sensibles à cette politesse, à laquelle ils ne s'attendaient pas, allèrent quitter leurs habits et revinrent souper. Il n'est pas possible de faire une plus magnifique chair ni plus délicate que celle que l'intendant nous fit soir et matin, ni faire mieux les honneurs de la ville et de leur logis que nous les firent l'intendant et sa femme les 3 jours que j'y séjournais, n'ayant pu y être moins pour l'arrangement du voyage. L'archevêque et le premier président n'y étaient point, le parlement était en vacances. Néanmoins, je vis le palais et ce qu'il y avait à voir dans la ville. Quoiqu'on me dégoûtât de voir l'hôtel de ville, qui est vilain, je persistai à vouloir y aller. Je voulais faire une autre civilité au jurat, sans conséquence. Ils s'y trouvèrent. Je leur dis que c'était beaucoup moins la curiosité qui m'amenait dans un lieu où on m'avait averti que je ne trouve rien qui méritât d'être vu, que le désir d'une occasion de leur rendre à tous une visite, ce qui me parut les avoir plu extrêmement. Enfin, après avoir bien remercié Monsieur et Madame Boucher, nous partîmes, traversâmes les grandes landes et arrivâmes à Bayonne, où nous mîmes pied à terre chez Dadoncourt, qui commandait très dignement et y était adoré, en servant parfaitement le roi. Mes enfants et moi logeâmes chez lui et tout mon monde dans le voisinage. Le changement de voiture pour nous et pour le bagage nous y retint 4 jours, pendant lesquels rien ne put ajouter aux soins d'Adoncourt et sa politesse aisée et sans compliment et à sa chair soir et matin, propre, grande et excellente. Il était venu accompagné d'officiers 1 lieue au-devant de nous. J'étais dès lors monté à cheval. L'artillerie, les compliments, il fallut essuyer cela comme à Bordeaux, et pour ne le pas répéter, ce fut la même chose au retour, excepté à Blaye, où je le défendis. Druillet, évêque de Bayonne, me vint voir, puis dîner avec nous, et ce qu'il y avait de plus principal dans la ville, mais en fort petit nombre. Je fus le lendemain chez ce prélat, qui était pieux, savant, et toutefois de bonne compagnie, et parfaitement aimé dans son diocèse et dans tout le pays. j'allai voir la citadelle, les forts et tout ce qu'il y avait qui mérita quelque curiosité. Péquet, qui avait été longtemps premier commis de M. de Torcy, et qui, pour dire le vrai, avait fait toutes les affaires étrangères tant que le maréchal d'Uxelles les avait eues, m'avait prié que son fils vînt en Espagne et fût chez moi, et il y avait pris les devants quelques jours auparavant. Je trouvai un courrier de Sartine arrivé à Bayonne une heure avant moi. Sartine me mandait, du 5 à 11 heures du soir, que le roi d'Espagne, ayant appris que Péquet était arrivé la veille, était très fâché de mon retardement, d'où résultait celui de l'échange des princesses qui essuierait le plus mauvais temps de l'hiver, que leur majesté catholique n'attendait que mon arrivée pour se mettre en chemin pour Burgos, jusqu'où elles avaient résolu de conduire l'infante et qu'elles désiraient extrêmement que je pressasse ma marche. Sartine tâcha inutilement de les détourner de ce voyage. Il ajouta de lui-même que leur majesté catholique serait sensiblement mortifiée si le départ de mademoiselle de Montpensier se retardait d'un moment du jour fixé et que le marquis de Grimaldo lui envoyait, à l'heure qu'il écrivait, un courrier par ordre du roi d'Espagne pour me le dépêcher et apporter ma réponse. Je répondis à Sartine que je le priais de représenter à leur majesté catholique que de ma part je n'avais rien oublié ni n'oublierai pour hâter mon voyage, que les circonstances et précautions à l'égard de la peste avaient empêché mes équipages de passer, ni rien pu faire préparer sur la route pour la diligenter, parce que les passeports d'Espagne n'étaient arrivés que le 29 du mois dernier, et que ces passeports étant pour le chemin qui passe à Victoria plus long que celui de Pampelune, que je voulais prendre, cela me retardait encore. Qu'au surplus, mon arrivée à Madrid, plus ou moins avancée, ne pouvait rien influer sur le départ de mademoiselle de Montpensier, fixé au 15 du mois. Que tout le désir du roi et de M. le duc d'Orléans de l'avancer était inutile par l'impossibilité que les préparatifs pussent être prêts plus tôt. Que de Paris à la frontière, elle mettrait 50 jours, par la difficulté des chemins et la quantité d'équipage, d'où il résultait que, de Madrid à la frontière, le chemin était plus court d'un tiers. L'infante ne pouvait être pressée de partir pour arriver juste au lieu de l'échange, et que, par conséquent, j'aurais tout le temps nécessaire pour m'acquitter de toutes les fonctions préalables à son départ, qui n'en pourraient être retardées d'un seul moment. Le 9, lendemain de mon arrivée à Bayonne, j'envoyai faire compliment à la duchesse de Linares, caméra mayor de la reine douairière d'Espagne, et la prier de lui demander audience pour moi pour l'après-dîner. Je reçus en réponse un compliment de la reine. Ses carrosses vinrent me prendre et me conduisirent chez elle. Véritablement, je fus étonné en y arrivant. Elle s'était retirée depuis assez longtemps dans une maison de campagne fort proche de la ville qui n'avait que 2 fenêtres de face sur une petite cour et guère plus de profondeur. De la cour, je traversai un petit passage et j'entrai dans une pièce plus longue que l'arche, très communément meublée, qui avait vue sur un beau et grand jardin. Je trouvai la reine qui m'attendait, accompagnée de la duchesse de Linares et de très peu de personnes. Je lui fis le compliment du roi et lui présentai sa lettre. On ne peut répondre plus poliment qu'elle fit à l'égard du roi, ni avec plus de bonté pour moi. La conversation fut sur la joie des mariages, le temps de l'échange et sur mon voyage. Elle était debout, sans siège derrière elle. Je ne me couvris point et n'en fis même pas le semblant. La duchesse de Linares et d'Adoncourt entrèrent seuls un peu dans la conversation. Je lui présentai mes enfants et ces messieurs qui étaient avec moi, à qui elle dit quelque chose, cherchant à leur parler à tous avec un air d'attention et de bonté, et en fort bon français. Elle était fort grande, droite, très bien faite, de grand air, de bonne mine, qui laissait voir qu'elle avait eu de la beauté. Elle me demanda beaucoup de nouvelles de madame. Tout son habillement était noir, et sa coiffure avec un voile, mais qui montrait des cheveux, et sa taille paraissait aussi. Ce vêtement n'était ni français ni espagnol, avec une longue queue que la duchesse de Linares tenait le bout, mais fort lâche. C'était un habit de veuve, mais mitigé, avec une longue et large attache devant le haut du corps de très beaux diamants. Pour la duchesse de Linares, son habit m'effraya. Il était tout à fait de veuve et ressemblait en tout à celui d'une religieuse. je ne dois pas oublier que je présentais aussi à la reine les compliments et une lettre de monsieur le duc d'Orléans, à quoi elle répondit avec une grande politesse. Au sortir de l'audience, elle me fit inviter à dîner pour le lendemain dans une maison de Bayonne où le gros de ses officiers demeurait et où elle l'a aussi logé. J'y allais, sur l'exemple du comte de San Esteban del Puerto, allant au congrès de Cambrai et tout à l'heure du duc d'Ossonne venant en France. Le sieur de Bruges, qui était chef de la maison de la reine Douairière, fit les honneurs du festin, très bon et très magnifique, où se trouva l'évêque de Bayonne, d'Adoncourt, et tout ce qui m'accompagnait de principal. J'eus une seconde audience de la reine pour la remercier du repas et prendre congé d'elle. La conversation fut plus longue et plus familière que la première fois. Elle finit par m'exposer le très triste état où elle se trouvait, faute de tout paiement d'Espagne depuis des années, et me fit prier d'en parler à leur majesté catholique et de lui procurer quelques secours sur ce qui lui était considérablement dû. Passant les Pyrénées, je quittai avec la France les pluies et le mauvais temps qui ne m'avaient pas quitté jusque-là et trouvai un ciel pur et une température charmante avec des échappées de vue et des perspectives qui changeaient à tout moment, qui ne l'étaient pas moins. Nous étions tous montés sur des mules dont le pas est grand et doux. Je me détournai du chemin à travers de hautes montagnes pour aller voir Loyola, lieu fameux par la naissance de Saint-Ignace, situé tout près d'un ruisseau assez gros dans une vallée fort étroite dont les montagnes de roches qui la serrent des deux côtés doivent faire une glacière quand elles sont couvertes de neige et une tourtière en été. Nous trouvâmes là quatre ou cinq jésuites fort polis et fort entendus qui prenaient soin du bâtiment prodigieux qui était entrepris pour plus de 100 jésuites et une infinité d'écoliers dans le dessein de faire de cette maison un noviciat, un collège, une maison professe qu'elle servit à tous les usages auxquels sont destinées leurs différentes maisons et le chef-lieu de leur compagnie. Ils nous firent voir le petit logis primitif du père de Saint-Ignace, qui est une maison de 5 ou 6 fenêtres qui n'a qu'un rez-de-chaussée pour le ménage, un étage au-dessus et plus haut un grenier. Ce serait tout au plus le logis d'un curé et ne ressembla jamais en rien à un château. Nous vîmes la chambre où Saint-Ignace, blessé à la guerre, fut longtemps couché et eut sa fameuse révélation touchant la compagnie dont il devait être l'instituteur, et l'écurie où sa mère voulut aller accoucher de lui, qui est au-dessous, par dévotion pour les tables de Bethléem. Rien de plus bas, de plus étroit, de plus écrasé que ces deux pièces. Rien aussi de si éblouissant d'or qui y brille partout. Il y a un autel dans chacune des deux où le Saint-Sacrement repose, et ces deux autels sont de la première magnificence. La maison des jésuites qu'ils allaient détruire pour leur immense bâtiment était fort peu de choses, et pour loger au plus une douzaine de jésuites. L'église nouvelle était presque achevée, en rotonde, d'une grandeur et d'une hauteur qui surprend, avec des autels pareils entre eux, tout autour, en symétrie. L'or, la peinture, la sculpture, les ornements de toutes les sortes et les plus riches, répandus partout avec un art prodigue mais sage, une architecture correcte et admirable, les marbres les plus exquis, le jaspe, le porphyre, le lapis, les colonnes unies, torses cannelés avec leurs chapiteaux et leurs ornements de bronze doré, un rang de balcons entre chaque autel et de petits degrés de marbre pour y monter, et les cages incrustées, les autels et ce qui les accompagne admirable, en un mot, un des plus superbes édifices de l'Europe, le mieux entendu et le plus magnifiquement orné. Nous y prîmes le meilleur chocolat dont j'ai jamais goûté, et après quelques heures de curiosité et d'admiration, nous regagnâmes notre route et notre gîte fort tard et avec beaucoup de peine. Nous arrivâmes le 15 à Victoria, où je trouvai la députation de la province qui m'attendait avec un grand présent d'excellents vins rancho. C'étaient 4 gentilshommes considérables qui étaient à la tête des affaires du pays. Je les conviai à souper et le lendemain à déjeuner avec nous. Ils parlaient français et je fus surpris de voir les Espagnols si gais et de si bonne compagnie à table. La joie du sujet de mon voyage éclata partout où je passais en France et en Espagne et me fit bien recevoir. On se mettait aux fenêtres et on bénissait mon passage. À Salinas, entre autres, où je passais sans m'arrêter, les dames qui, à voir leur maison et elles-mêmes aux fenêtres, me parurent de qualité, me demandèrent de si bonne grâce de voir un moment celui qui allait conclure le bonheur de l'Espagne, que je crus qu'il était de la galanterie de monter chez elles. Elles m'en parurent ravies et j'eus toutes les peines du monde à m'en débarrasser pour continuer mon chemin. Je trouvai à Vittoria un courrier de Sartine pour me presser d'arriver, mais dont la date était antérieure au retour de son courrier de Bayonne. Mais étant le 17 à 5 heures du matin, prêt à partir de Miranda d'Ebro, arriva un autre courrier de Sartine qui me mandait que les raisons, quoique sans réplique, que je lui avais écrites de Bayonne, n'avaient point ralenti l'extrême empressement de leur majesté catholique. Sur quoi je le priai de me faire tenir des relais le plus qu'il pourrait, à quelque prix que ce fût, pour presser mon voyage tant qu'il me serait possible. J'arrivai le 18 à Burgos, où je comptais séjourner, pour voir au moins un jour ce que deviendrait une fièvre assez forte qui avait pris mon fils aîné, qui m'inquiétait beaucoup, en attendant que mes relais pussent se préparer. Mais Péquet arriva pour presser de nouveau ma marche et si vivement qu'il fallut abandonner mon fils et presque tout mon monde. L'abbé de Matan voulut bien demeurer avec lui pour en prendre soin et ne le point quitter. J'appris par Péquet la cause d'une si excessive impatience. C'est que la reine, qui n'aimait point le séjour de Madrid, pétillait d'en sortir pour aller à Lerma, où on l'avait assuré qu'elle trouvera une chasse fort abondante. Péquet me dit que monsieur de Grimaldo et Sartine n'avaient rien oublié pour rompre, au moins différer ce voyage, mais que l'impatience avait été nourrie et augmentée par Maulévrier, enragé de voir arriver un ambassadeur de naissance et de dignité personnelle, et qui n'avait pu s'empêcher de dire qu'il l'aurait plus patiemment souffert si c'était été le duc de Villeroy. Ce sieur Andro, si délicat pour soi, ne cherchait pas les amis de monsieur le duc d'Orléans par le désir de ces messieurs, et outre qu'il s'oubliait bien lui-même, il perdait promptement la mémoire qu'il avait été laissé à mon choix de lui donner ou non le caractère d'ambassadeur que, par conséquent, il me devait, et qui, en cette occasion surtout, l'honorait fort au-delà de ses espérances. Toutefois, je résolus de n'en faire aucun semblant et de vivre avec lui comme si j'eusse ignoré ce que je venais d'apprendre. Mais je le mandai au cardinal Dubois. Je partis donc de Burgos le 19 avec mon second fils, le comte de Lorge, monsieur de Céreste, ces deux derniers ne vinrent qu'un peu après ensemble, l'abbé de Saint-Simon, son frère, le major de son régiment et très peu de domestiques. Nous trouvâmes peu de relais et, mal établis, marchâmes jour et nuit sans nous coucher jusqu'à Madrid, nous servant des voitures des corregidors où nous pûmes, tellement que je fus obligé de faire les 12 dernières lieues à cheval en poste qui en valent le double d'ici. Nous arrivâmes de la sorte à Madrid le vendredi 21 à 11 heures du soir. Nous trouvâmes à l'entrée de la ville, qui n'a ni muraille, ni porte, ni barrière, ni faubourg, des gens de garde qui demandèrent qui nous étions et d'où nous venions, et qu'on y avait mis exprès pour être averti du moment de mon arrivée. Comme j'étais fort fatigué d'avoir toujours marché sans arrêter depuis Burgos et qu'il était fort tard, je répondis que nous étions des gens de l'ambassadeur de France qui arriverait le lendemain. Je suis après que, par le calcul de Sartine, de Grimaldo et de Péquet, arrivés devant moi, ils avaient tous compté que je ne serais à Madrid que le 22. Dès que je fus chez moi, j'envoyai chercher Sartine pour prendre langue avec lui, fermai bien ma porte et donnai ordre de dire à quiconque pourrait venir qu'on ne m'attendait que le lendemain. Je sus par Sartine que, grâce à ses précautions et aux peines que le duc de Liria avait bien voulu prendre, j'aurais le surlendemain de quoi me mettre en public et que, 8 jours après, je serais en état d'avoir tous mes équipages et de prendre mon audience solennelle. Cependant, tout ce qui n'était point destiné à demeurer à Burgos avec mon fils aîné arriva en poste à la file, en sorte que personne et que rien ne me manqua. Le lendemain, samedi 22 de bonne heure, Sartine accompagna mon secrétaire chez le marquis de Grimaldo, tandis que j'envoyais faire des messages accoutumés quand on arrive au ministre des Cours étrangères. Grimaldo, surpris et fort aise de mon arrivée, qu'il n'attendait que le soir de ce jour, fut au palais le dire à leur majesté catholique, qui, dans leur impatience de partir, furent ravis. Du palais, Grimaldo vint chez moi, au lieu d'attendre ma première visite. il me trouva avec Maulevrier, le duc de Liria et quelques autres. Ce fut apparemment sur l'exemple de Grimaldo que les trois charges vinrent aussi chez moi, le marquis de Santa Cruz, majordome-major de la reine et très bien avec elle, le duc d'Arcos, le marquis de Bedmar, président du conseil de guerre et de celui des ordres et chevalier de celui du Saint-Esprit, le duc de Veragua, président du conseil des Indes, tous grands d'Espagne, l'archevêque de Tolède, le grand inquisiteur évêque de Barcelone, presque tous ayant le vain titre de conseiller d'État. La plupart vinrent le matin, les autres l'après-dîner et les jours suivants, tout ce qu'il y eut à Madrid de grands, de seigneurs et de ministres étrangers. Le gouverneur du conseil de Castille, qui ne visite jamais personne, ni n'envoie, si ce n'est pour affaire, envoya me complimenter, quoique je n'eusse point envoyé chez lui par la raison que je dirai lorsque je parlerai de cette première charge d'Espagne. Castellar, secrétaire d'État pour la guerre, vint aussi chez moi ce même jour. Le duc de Liria se disposait à venir une lieue au-devant de moi avec Valouz et Sartine, et de son côté Maulevrier avec Robin. Grimaldo me témoigna la joie de leur majesté catholique de mon arrivée, et après m'avoir fait les plus gracieux compliments pour lui-même, me donna le choix de leur part de les aller saluer ce même matin ou dans l'après-dîner. Je crus l'empressement mieux séant, et j'y allai avec lui sur le champ, dans le carrosse de Maulevrier qui vint aussi. De cette sorte fut levée toute difficulté sur la première visite à l'égard de tous ceux à qui elle était due de ma part et de ceux qui la pouvaient prétendre, dont j'eus le sang bien rafraîchi. Nous arrivâmes au palais, comme le roi était sur le point de revenir de la messe, et nous l'attendîmes dans le petit salon qui est entre le salon des grands et celui des miroirs dans lequel personne n'entre que mandé. Peu de moments après, le roi vint par le salon des grands. Grimaldo l'avertit, comme il entrait dans le petit salon, il vint à moi aussitôt, précédé et suivi d'assez de courtisans, mais qui ne ressemblaient pas à la foule des nôtres. Je lui fis ma profonde révérence, il me témoigna sa joie de mon arrivée, demanda des nouvelles du roi, de monsieur le duc d'Orléans, de mon voyage et des nouvelles de mon fils aîné, qu'il avait su être demeuré malade à Burgos, puis entra seul dans le cabinet des miroirs. À l'instant, je fus environné de toute la cour avec des compliments et des témoignages de joie des mariages et de l'union des deux couronnes. Grimaldo et le duc de Liria me nommaient les seigneurs, qui presque tous parlaient français, aux civilités infinies desquelles je tâchais de répondre par les miennes. Un demi-quart d'heure après que le roi fut rentré, il m'envoya appeler. J'entrai seul dans le salon des miroirs, qui était fort vaste, bien moins large que long. Le roi et la reine à sa gauche étaient presque au fond du salon, debout et tout joignant l'un l'autre. J'approchai avec trois profondes révérences et je remarquerai une fois pour toutes que le roi ne se couvre jamais qu'aux audiences publiques et quand il va et vient de la messe en chapelle, terme que j'expliquerai en son lieu. L'audience dura demi-heure, car c'est toujours eux qui congédient, à témoigner leur joie, leur désir, leur impatience avec un épanchement infini, très bien aussi sur monsieur le duc d'Orléans et sur le désir de rendre mademoiselle de Montpensier heureuse, sur un portrait d'elle et un autre du roi qu'ils me montrèrent. À la fin de la conversation, où la reine parla bien plus que le roi, dont néanmoins la joie éclatait avec ravissement, ils me firent l'honneur de me dire qu'ils me voulaient faire voir les infants et me commandèrent de les suivre. Je traversai seul à leur suite la chambre et le cabinet de la reine, une galerie intérieure où il se trouva deux dames de service et deux ou trois seigneurs en charge qui apparemment avaient été avertis, comme j'expliquerai ailleurs, et passai avec cette petite suite toute cette galerie au bout de laquelle était l'appartement des infants. Je n'ai point vu de plus jolis enfants, ni mieux faits que Don Ferdinand et Don Carlos, ni un plus beau maillot que Don Philippe. Le roi et la reine prirent plaisir à me les faire regarder et à les faire tourner et marcher devant moi de fort bonne grâce. Ils entrèrent après chez l'infante où je tâchais d'étaler le plus de galanterie que je pus. En effet, elle était charmante avec un petit air raisonnable et point embarrassée. La reine me dit que l'infante commençait à apprendre assez bien le français, et le roi qu'elle oublierait bientôt l'Espagne. « Oh !» s'écria la reine, « non seulement l'Espagne, mais le roi et moi, pour ne s'attacher qu'au roi son mari. » Sur quoi je tâchais de ne pas demeurer muet. Je sortis de là, à la suite de leur majesté catholique, que je suivis à travers cette petite galerie et leur appartement. Ils me congédièrent aussitôt avec beaucoup de témoignages de bonté, et rentré dans le salon avec tout le monde, je fus environné de nouveau avec force compliments. Peu de moments après, le roi me fit rappeler pour voir le prince des Asturies, qui était avec leur majesté dans ce même salon des miroirs. Je le trouvai grand et véritablement fait à peindre, blond et de beaux cheveux, le teint blanc avec de la couleur, le visage long mais agréable, les yeux beaux mais trop près du nez. Je lui trouvai beaucoup de grâce et de politesse. Il me demanda fort des nouvelles du roi, puis de monsieur le duc d'Orléans et de mademoiselle de Montpensier, et du temps de son arrivée. Leurs majestés catholiques me témoignèrent beaucoup de satisfaction de ma diligence, me dirent qu'ils avaient retardé leur voyage pour me donner le temps de me mettre en état de prendre mes audiences, qu'une seule suffirait pour faire la demande de l'infante et l'accorder, que les articles pourraient être signés la veille de cette audience et l'après-dîner de ce jour de l'audience signer le contrat. Ensuite, ils me demandèrent quand tout serait prêt. Je leur dis que ce serait le jour qui leur plairait, parce que tout ce que je faisais préparer n'étant que pour leur faire ma cour, je croirais y mieux réussir, avec moins, pour ne pas retarder leur départ, que de différer pour étaler tout ce à quoi on travaillait encore. Il me parut que cette réponse leur plut fort, mais elles ne voulurent jamais déterminer le jour, sur quoi enfin je leur proposais le mardi suivant. La joie de cette promptitude parut sur leur visage. Ils me témoignèrent m'en savoir beaucoup de gré. Là-dessus, le roi se recula un peu, parla bas à la reine, et elle à lui, puis se rapprochèrent du prince des Asturies et de moi, et fixèrent leur départ au jeudi suivant, 27 du mois. Tout de suite, ils me permirent non seulement de les y suivre, mais m'ordonnèrent de les suivre de près, parce que l'incommodité des logements ne permettait qu'à peine aux officiers de service les plus nécessaires de les accompagner dans la route. Ce fut la fin de toute cette audience. Mon livrier seul me ramena chez moi, où je trouvais Don Gaspar Giron, l'ancien des quatre majordomes, qui s'était emparé de ma maison avec les officiers du roi, qui me traita magnifiquement, avec beaucoup de seigneurs qu'il avait invités, et fit toujours les honneurs, ce qui, quoi que je puisse faire, dura jusqu'au mercredi suivant inclus, avec un carrosse du roi à ma porte, toujours pour me servir. Mais à ce dernier égard, j'obtins enfin que cela ne durerait que 3 jours, pendant lesquels il fallut toujours m'en servir. Il était à 4 mules avec un cocher du roi et quelques-uns de ses valets de pied en livrée. Ce traitement de table et de carrosse est une coutume à l'égard des ambassadeurs extraordinaires. Si je m'étends sur les honneurs que j'ai reçus, c'est un récit que je dois à l'instruction et à la curiosité, et plus encore à la joie extrême du sujet de cette ambassade, qui fit passer par-dessus toute règle, comme pour les premières visites, et en bien d'autres, ainsi qu'aux accueils et aux empressements que je reçus de tout le monde, et qui furent toujours les mêmes, tant que je demeurais en Espagne. L'audience solennelle pour la demande de l'infante. Au milieu de cette vaste pièce et du côté que j'avais en face en entrant, était un dais à queue sans estrade, sous lequel le roi était debout, et à quelque distance, précisément derrière lui, le grand d'Espagne, capitaine des gardes en quartier, qui était le duc de Bournonville. Du même côté, presque au bout, le majordome-major du roi, appuyé à la muraille, seul. En retour, le long de la muraille, qui par un coin joignait l'autre muraille dont je viens de parler, étaient les grands appuyés contre, et aussi contre la muraille en retour vis-à-vis du roi jusqu'à la cheminée, grande comme autrefois, et qui était assez près de la porte par où je venais d'entrer, et point du tout au milieu de cette muraille, les 4 majordomes étaient le dos à la cheminée. De la cheminée à la porte par où j'étais entré, et en retour le long de la muraille et des fenêtres jusqu'au coin de la porte par où le roi était entré, étaient en foule les gens de qualité, les uns devant les autres. Dans la porte par où le roi était entré, étaient quelques seigneurs familiers par leurs emplois, qui regardaient comme à la dérobée, mais dont aucun n'était grand, et derrière eux quelques domestiques intérieurs distingués qui voyaient à travers. Le roi et tous les grands étaient couverts, et nul autre. Il n'y avait aucun ambassadeur. Je m'arrêtai un moment, au-dedans de la porte, à considérer ce spectacle extrêmement majestueux, où qui que soit ne branlait, et où le silence régnait profondément. Je m'avançai lentement, quelques pas, et fis au roi une profonde révérence, qui à l'instant se découvrit son chapeau à la hauteur de sa hanche. Au milieu de la pièce, je fis ma seconde révérence, et en me baissant, je me tournai un peu vers la droite, passant les yeux sur les grands, qui tous se découvrirent, mais non tant qu'à la première révérence, où ils avaient imité le roi, qui, à cette seconde, ne branla pas, comme il m'en avait fait avertir. J'avançai après, avec la même lenteur, jusqu'assez près du roi, où je fis ma troisième révérence, qui se découvrit comme il avait fait à la première, et se couvrit aussitôt, en quoi tous les gens l'imitèrent. Quand je commençai mon discours, et me couvris au bout des cinq ou six premières paroles sans que le roi me le dît. Il roula sur les compliments du roi, l'union de la maison royale, celle de leur couronne, la joie et l'affection des deux nations, celle que j'avais trouvée répandue partout sur ma route en France et en Espagne, l'attachement personnel du roi pour le roi son oncle et son désir de lui complaire et de contribuer en tout à ce qui pourrait être de sa grandeur, de ses intérêts, de ses affections, avec autant de passion que pour les siens propres. Enfin, la demande de l'infante pour étreindre encore plus intimement entre eux des liens déjà si forts du sang et les intérêts de leur couronne, et lui témoigner sa tendresse par toutes celles qu'il aurait pour l'infante, ses soins, ses égards, et l'attention continuelle de la rendre parfaitement heureuse. Je passai de là au remerciement du roi et à celui de monsieur le duc d'Orléans de l'honneur de son choix de mademoiselle de Montpensier pour monsieur le prince des Asturies. J'ajoutai que quelque grand que son Altesse royale le sentît, il était encore plus touché de recevoir une aussi grande marque de ses bontés pour lui et de l'acceptation de son plus profond respect et de ses protestations les plus sincères de sa passion de lui plaire et de ne rien oublier pour resserrer de plus en plus une si heureuse union des deux royales branches de leur maison en contribuant de ses conseils et de tous les moyens qu'il pourrait tirer de sa qualité de régent de France pour servir et porter les intérêts et la grandeur de sa majesté catholique avec autant de zèle et d'attachement que ceux même de la France, et la persuader de plus ce qu'il souhaitait avec le plus de passion de son infinie reconnaissance, de son attachement, de son profond respect et de sa vénération parfaite pour sa personne. Je finis mon discours par témoigner combien je ressentais de joie et combien je me trouvais honoré d'avoir le bonheur de paraître devant Sa Majesté catholique, chargée par le roi de contribuer de sa part à mettre la dernière main à un ouvrage si désirable et qui me comblait en mon particulier de la plus sensible satisfaction, outre celle que toute la France et l'Espagne, parce que je n'avais jamais pu oublier d'où Sa Majesté catholique était issue, et toujours nourri et témoigné en tous les temps mon très profond respect et l'attachement le plus vrai et le plus naturel pour elle. Si j'avais été si surpris de la première vue du roi d'Espagne à mon arrivée, et si les audiences que j'avais eues jusqu'à celle-ci m'avaient si peu frappé, il faut dire d'ici, avec la plus grande exacte et la plus littérale vérité, que l'étonnement où me jetèrent ces réponses me mit presque hors de moi-même. Il répondit à chaque point de mon discours dans le même ordre avec une dignité, une grâce, souvent une majesté, surtout avec un choix si étonnant d'expression et de parole par leur justesse et un compassement si judicieusement mesuré que je crus entendre le feu roi, si grand maître et si versé en ces sortes de réponses. Philippe V sut joindre l'égalité des personnes avec un certain air de plus que la déférence pour le roi son neveu, chef de sa maison, et laisser voir une tendresse innée pour ce fils d'un frère qu'il avait passionnément aimé et qu'il regrettait toujours. Il laissa étinceler un cœur français sans cesser de se montrer en même temps le monarque des Espagnols. Il fit sentir que sa joie sortait d'une source plus pure que l'intérêt de sa couronne, je veux dire de l'intime réunion du même sang. Et à l'égard du mariage du prince des Asturies, il sembla remonter quelques degrés de son trône, s'expliquer avec une sérieuse bonté, sentir moins l'honneur qu'il faisait à monsieur le duc d'Orléans en faveur du même sang que la grâce signalée, je ne dis point trop et je n'ajoute rien, qui lui faisait d'avoir bien voulu ne point penser qu'à le combler par une marque si certaine de sa bonne volonté pour lui. Cet endroit surtout me charma par la délicatesse avec laquelle, sans rien exprimer, il laissa sentir sa supériorité tout entière, la grâce si peu méritée de l'oubli des choses passées et le sceau si fort inespérable que sa bonté daignait y apposer. Tout fut dit avec tant d'art et de finesse et coula toutefois si naturellement, sans s'arrêter, sans bégayer, sans chercher, qu'il fit sentir tout ce qu'il était, tout ce qu'il pardonnait, tout en même temps à quoi il se portait, sans qu'il lui échappât ni un seul mot, ni une seule expression qui pût blesser le moins du monde, et presque tout au contraire obligeante. Ce que j'admirais encore fut l'effectif, mais toutefois assez peu perceptible, changement de ton et de contenance en répondant sur les deux mariages. Son amour tendre pour la personne du roi, son affection hors des fers pour la France, la joie d'en voir le trône s'assurer à sa fille, se peindre sur son visage et dans toute sa personne à mesure qu'il en parlait. Et lorsqu'il répondit sur l'autre mariage, la même expression s'y peignit aussi, mais de majesté, de dignité, de prince qui sait se vaincre, qui le sent, qui le fait, et qui donne dans toute son étendue le poids et le prix de tout ce qu'il veut bien accorder. Je regretterai à jamais de n'avoir pu écrire sur le champ des paroles si singulières et de n'en pouvoir donner ici qu'une idée si dissemblable à une si surprenante perfection. Quand il eut fini, je crus lui devoir un mot de louange sur ce dernier article et un nouveau remerciement de M. le duc d'Orléans comme son serviteur particulier. Au lieu de m'y répondre, le roi d'Espagne me fit l'honneur de me dire les choses obligeantes et du plaisir qu'il avait que j'eusse été choisi pour faire auprès de lui des fonctions qui lui avaient été si agréables. Ensuite, m'étant découvert, je lui présentai les officiers des troupes du roi qui m'accompagnaient, et le roi d'Espagne se retira en m'honorant encore de quelques mots de bonté. Je fus environné de nouveau par tout ce qui était là de plus considérable avec force civilité. Après quoi la plupart des grands et des gens de qualité allèrent chez la reine, tandis que quelques-uns d'eux tous demeurèrent à m'entretenir pour laisser écouler tout ce qui sortait et se placer chez la reine, où au bout de fort peu de temps, nous fûmes aussi conduits comme nous l'avions été chez le roi. Arrivés dans la pièce joignante, celle où l'audience se devait donner, on nous fit attendre que tout y fût préparé. Avant d'aller plus loin, il faut expliquer que Don Gaspar Girone ne me conduisit, allant chez la reine, que jusqu'au bout de l'appartement du roi, et qu'à l'entrée de celui de la reine, il se retira et laissa sa fonction à un majordome de la reine. J'avais su que Mani, qui en était un, se trouvait justement en semaine, par conséquent que c'était à lui de m'introduire. J'en avais parlé à Grimaldo et demandé qu'on en cherchât un autre. Non seulement je l'obtins, mais Mani, qui avait été nommé pour le voyage de Lerma, en fut rayé, et aucun autre majordome de la reine mit de ce voyage au lieu de lui. Mais il reçut défense expresse de se trouver en aucun lieu où je serais, même au palais. Grimaldo me le dit lui-même. Soit que cette défense ait été étendue aux autres Français réfugiés pour l'affaire de Selamar et de Bretagne, ou qu'ils l'aient cru sur l'exemple de Mani, ils évitèrent tous et toujours ma rencontre, et presque toujours celle de tout ce qui était venu avec moi en Espagne. Tout étant prêt, la porte s'ouvrit et nous fûmes appelés. La pièce de l'audience était le double de la petite galerie intérieure pour laquelle on a vu que, le jour de ma première révérence, j'avais suivi leur majesté catholique chez les infants. Ce double était moins long, mais aussi large que la galerie, à laquelle elle était unie par de grandes arcades ouvertes, desquelles seule cette pièce tirait son jour. Nous arrivâmes par le côté de l'appartement des enfants, et la reine et sa suite étaient entrées par le sien au bout opposé. Le bas de cette pièce, que nous trouvâmes d'abord en y entrant, était obscur et plein de monde, qui était arrêté par une barrière à 7 ou 8 pas en avant, où l'obscurité s'éclaircissait. La porte de la pièce et celle de la barrière, qui ne se tira que lorsque je fus tout près, fut un défilé qui me laissa passer seul, en sorte que je ne pus voir ensuite derrière moi. Au fond de cette pièce, qui était fort longue, la reine était assise sur une espèce de trône, c'est-à-dire un fauteuil fort large, fort évasé et fort orné, les pieds sur un carreau magnifique, d'une largeur et d'une hauteur extraordinaire, qui cachait, comme je le vis quand la reine sortit, quelques marches assez basses. Le long de la muraille étaient les grands, rangés, appuyés et couverts. Vis-à-vis, le long des arcades, des carreaux carrés, longs plus que larges et médiocrement épais, de velours et de satin rouge ou de damas, tous également galonnés d'or tout autour de la largeur de la main ou plus, avec de grosses houppes d'or dans les coins. Sur les carreaux de velours étaient les femmes des grands d'Espagne et les femmes de leurs fils aînés, sur ceux de satin ou de damas, toutes également assises sur leurs jambes et sur les talons. Cette file de grands à la muraille et de dames sur les carreaux vis-à-vis d'eux tenait toute la longueur de la pièce, laissant un peu de distance en approchant de la reine et un autre en approchant de la barrière par où j'entrais. Je m'arrêtai quelques moments dans la porte de cette barrière à considérer un spectacle si imposant, tandis que par derrière moi, les ducs de Velagua et de Liria, le prince de Macéran et quelques autres grands qui avaient voulu me faire l'honneur de m'accompagner depuis l'appartement du roi, se glissèrent à la muraille à la suite des derniers placés. Le majordome-major du roi ne se trouva point à cette audience parce que, ayant de droit la première place partout, il ne la veut céder au majordome-major de la reine qui, chez elle, prétend la voir et en est possession. Aussi était-il à la tête des grands, à la muraille, y ayant une place vide entre lui et le grand d'Espagne qui était le plus près de lui, comme vis-à-vis de lui, entre le carreau de la caméra major de la reine et le carreau le plus près d'elle. Le majordome-major de la reine était placé là parce que la reine tenait tout le fond de la pièce, ayant deux officiers et des gardes du corps à peu près en arrière, à côté de son fauteuil. Les dames de qualité étaient en grand nombre debout derrière les carreaux des dames assises et remplissaient le vide de chaque arcade. Quelques gens de qualité s'étaient mis derrière elles, mais le gros de ceux-là se tint contre les barrières, en dedans qui pue et en dehors de la foule. Après avoir arrêté mes yeux quelques moments sur ce beau spectacle fort paré, je m'avançai lentement jusqu'au second carreau d'en bas, marchant au milieu de la largeur de la pièce, et là je fis une profonde révérence. Je continuai à m'avancer de même jusqu'au milieu de la longueur qui restait, où je fis la seconde révérence, me tournant un peu vers les carreaux en me baissant, passant les yeux dessus ce qui était à portée, et j'en fis de même en me relevant vers les grands, qui se découvrirent, comme les dames m'avaient fait une légère inclination du corps de dessus leurs carreaux. J'avançai ensuite jusqu'au pied du carreau de la reine, où je fis ma troisième révérence, à laquelle seule la reine répondit par une inclination de corps fort marquée. Un instant après, je dis « Madame », et ce mot achevé, je me couvris, et tout de suite me découvris, sans avoir ôté ma main de mon chapeau, et ne me couvris plus. Les grands, depuis ma seconde révérence, étaient demeurés découverts et ne se couvrirent plus. Mon discours roula sur les mêmes choses qu'avait fait celui que je venais de faire au roi, retranchant et ajustant à ce qui lui convenait également ou différemment du roi d'Espagne. Elle était parée modestement, mais brillante d'admirables pierreries, et avait une grâce et une majesté qui sentait bien une grande reine. Elle fut surprise d'un si grand transport de joie qu'elle s'en laissa apercevoir embarrassée, et prit plaisir depuis à m'avouer son embarras. Elle ne laissa pas de me répondre en très bons termes sur sa joie du mariage de l'infante, sur son estime et son affection pour le roi, et sa passion même pour lui, sur son amitié pour monsieur le duc d'Orléans, et son désir de voir sa fille heureuse en Espagne, surtout sur son désir et sa joie extrême de l'union des couronnes, des personnes royales de la même maison, de leur commune grandeur et de leurs intérêts qui ne pouvaient jamais être que les mêmes, puis des marques de bonté pour moi. Si cette audience eût été la première, sa réponse m'aurait charmé, tant elle était bien faite et accompagnée de toutes les grâces possibles et de majesté. Mais il faut avouer qu'avec beaucoup d'esprit, de tour naturel et de facilité de s'énoncer, elle ne put s'élever jusqu'à la justesse et à la précision du roi, si diversement modulée sur chaque point, beaucoup moins jusqu'à ce ton suprême qui sentait la descendance directe d'un si grand nombre de rois, qui se proportionnait avec tant de naturelle majesté aux choses et aux personnes, dont il fit plus entendre qu'il n'en dit dans sa réponse. Quand elle eut achevé, je lui fis une profonde révérence et je me retirai le plus diligemment que la décence me le permit pour gagner le dernier carreau de velours d'en bas et les parcourir promptement tous, employant un peu le genou devant chacun et disant à la dame assise dessus, à l'hospies, ce qui suppose je me mets aux pieds de votre excellence. À quoi chacune sourit et répondit avec une inclination de corps. Il faut être preste à cette sorte de course qui se fait, tandis que la reine se débarrasse de ce gros carreau qu'elle a sous les pieds, qu'elle se lève, qu'elle descend les marches de cette espèce de trône, et qu'elle retourne dans son appartement par la porte de la galerie qui y donne, et qui n'est presque éloignée de ce trône que de la demi-largeur de la pièce où elle est, et de la largeur entière de la galerie, qui sont très médiocres, et il faut avoir achevé le dernier carreau près de celui de la Camera Mayor, qui se lève en même temps que la reine pour la suivre, attend de trouver la reine à la porte de son appartement, mettre un genou à terre devant elle, lui baiser la main qu'elle vous tend et la remercier en 5 ou 6 paroles, à quoi elle répond de même. Je ne pus avoir de sitôt expédié les carreaux que je vis la reine dans la porte de son appartement. Elle m'avait déjà traité avec tant de bonté et de familiarité que je crus pouvoir user de quelque sorte de liberté dans ces moments de si grande joie, tellement que je courus vers elle et lui criai que sa majesté se retirait bien vite, et comme je la vis s'arrêter et se retourner, je lui dis que je ne voulais pas perdre un moment et un honneur si précieux. Elle se mit à rire, et moi, un genou à terre, à lui baiser la main, qu'elle me tendit dégantée et me parla fort obligeamment. Mon remerciement suivit, et cela fit un entretien de quelques moments dans cette porte, ces dames en cercle autour, qui arrivaient cependant. La reine et quelques-unes de ces dames rentrées, je fis plus posément et avec plus de loisir des compliments à celles qui, par leur charge, allaient aussi rentrer chez la reine, qui était demeurée pour m'en faire. Puis j'allais remplir le même devoir de galanterie auprès des principales des autres, que je trouvais le plus sous ma main, puis à beaucoup de seigneurs qui m'environnèrent. J'oubliais mal à propos qu'à la fin de l'audience, je présentais à la reine tous les officiers des troupes du roi qui m'avaient suivi en Espagne. Débarrassé peu à peu de tant de monde, et toujours avec les mêmes seigneurs susnommés qui m'avaient fait l'honneur de vouloir m'accompagner de chez le roi chez la reine, et qui, quoi que je pusse faire, voulurent absolument aller partout avec moi, nous allâmes chez le prince des Asturies, où tout se passa sans aucune cérémonie. Je fis une seule révérence au prince, qui était découvert et qui ne se couvrit point du tout. Ce fut moins une audience qu'une conversation, dans laquelle le prince n'oublia rien de tout ce qui convenait de dire, et sans aucun embarras. Le duc de Popoli, qui, comme à première audience, m'était venu recevoir et conduire à l'entrée de l'appartement, fut plus embarrassé que lui. Il m'accabla de ses sentiments de joie sur les mariages, et d'attachement pour le roi et monsieur le duc d'Orléans, et de compliments pour moi avec force excuse sur ce que son esclavage chez le prince, ce fut le terme dont il se servit, ne lui avait pas encore permis de venir me rendre ses devoirs. Je lui répondis avec toutes sortes de politesse, mais avec peine, tant son affluence de protestation était continuelle, et mes divertissements à part moi de son embarras. L'introducteur des ambassadeurs nous conduisit après chez l'infante et chez les infants, le dernier dormait, et suivant ce que Grimaldo m'avait promis, l'infante dormait aussi. Je sortis du palais avec les mêmes honneurs que j'y avais été reçu, les bataillons étant demeurés pour cela dans la place, et je trouvai chez moi Don Gaspar Giron qui m'attendait en grande et illustre compagnie et un magnifique repas.